est totalement impossible. Voilà, je vous remercie vraiment de ce livre que vous m'avez permis de travailler.
Ben Denis,
merci.
Le droit, la loi.
Oui, alors. Alain Blanc m'a demandé de réagir au livre sous l'angle de du droit et de la loi, si je peux dire. Alors, dans un livre, quand on le lit, il y a un moment où il y a un passage qui nous frappe, qui nous touche, qui nous éblouit en quelque sorte. C'est pas forcément le passage qui vous éblouira à vous, mais moi, il y a page 170, en 2016, comme en 1979 ou en 54, en France comme en Iran ou en Algérie, les militants qui se réclament de la révolution mondiale, ou même seulement du socialisme, continuent à réduire la religion à un simple voile mystique, à une illusion qui se dissipera quand la société aura changé. Cette phrase, à mon avis, résume une partie de vos thèses, mais enfin, une thèse principale quand même, sur laquelle je voudrais revenir, parce que si Alain m'a demandé de réagir du point de vue du droit et de la loi, je voudrais pas aborder directement le djihadisme comme tu l'as fait, mais reprendre plus globalement la question du fait religieux telle qu'elle se pose dans nos sociétés aujourd'hui et telle qu'on la voit sous l'angle du droit, sous l'angle de la justice, sous l'angle de la loi, pour en quelque sorte montrer que nous sommes immergés dans le religieux que l'on prend sous l'angle du normatif. Non pas sous l'angle du religieux, de la croyance, mais sous l'angle de l'écorce normative qu'il contient, et nous absorbons cette dimension-là dans nos pratiques quotidiennes de magistrats, d'avocats, de juristes notamment. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on interroge assez peu souvent. Moi, je l'ai découvert récemment dans un séminaire qu'on avait fait au tribunal de grande instance de Paris, et on avait demandé au juge aux affaires familiales, le droit familial est très imprégné de religieux. On leur avait demandé, au fond, quelle est la part du religieux dans vos dossiers. Et l'un d'entre eux nous avait dit, moi, c'est 80% de mes dossiers. Et c'est quoi ces dossiers? C'est des divorces, des affaires de mariage dans un pays qui pratique l'islam, des affaires d'adoption, de kafala, c'est l'autorité parentale au Maroc qui est transférée en France sous l'angle de l'adoption, etc., etc. Bref, les tribunaux aujourd'hui sont complètement investis par un fait religieux mondialisé. C'est l'effet de la mondialisation qui, en quelque sorte, vient faire irruption dans les prétoires par le biais du droit, en quelque sorte, et qui se présente au juge qui doit, à son tour, valider ou pas telle ou telle pratique religieuse qui touche la sphère familiale, avec le verrou qui est ce qu'on appelle en droit l'ordre public de protection, c'est-à-dire quand une pratique, par exemple la répudiation, est contraire à notre ordre public, il la récuse. Par contre, quand d'autres pratiques, par exemple la kafala ou l'adoption marocaine, lui semblent conformes à nos pratiques, il l'accepte. Donc il y a une régulation du fait religieux normatif par le juge qui est extrêmement présente, extrêmement forte. Je prends l'exemple de Paris, parce que Paris, ville cosmopolite, on ne peut pas prendre l'exemple dans d'autres villes, mais il était quand même extrêmement frappant de voir comment le fait religieux, par le biais de la mondialisation aujourd'hui, touche directement nos tribunaux. Donc on a, derrière le conflit des identités, derrière le bouillonnement des identités, on a un travail, je dirais, en profondeur, invisible, d'intégration et de tolérance aussi du fait religieux dans nos sociétés, qui permet au fond à une sorte de multiculturalisme qui ne se reconnaît pas comme tel, de travailler la société à travers le droit, notamment sous l'angle notamment du droit familial, mariage, répudiation, polygamie. Dans certains pays européens, on donne des effets aux enfants nés de la polygamie. Enfin, le droit s'articule en permanence à une altérité culturelle, et c'est quelque chose qu'il faut quand même bien voir pour mesurer l'ampleur de ce travail de nos sociétés. Alors, on ne va pas jusqu'à la pratique anglaise. Il y a des Sharia Councils en Angleterre, qui sont des tribunaux avec l'agrément de l'État, qui régulent en direct, je dirais, les conflits familiaux, au nom de la charia. La charia, non pas la charia comme, comme religion, entendons-nous bien, mais la charia comme loi. Quand dans un pays, la charia est la loi, au Maroc par exemple, elle est la loi positive. Et quand elle s'applique, quand le droit français doit l'intégrer en France, il adopte la charia parce que c'est une loi dans le pays d'origine. Donc on n'a pas les charia council, mais on a quand même des tribunaux qui travaillent directement ces questions-là. Et c'est un phénomène durable qui ne fait que commencer et sur lequel il faut absolument travailler. Les Canadiens ont travaillé sous l'angle des accommodements raisonnables qui permettent effectivement d'articuler la pluralité culturelle à travers un travail d'articulation permanente. Et je crois qu'il y a ce travail-là sur lequel il faut continuer à avoir un regard aigu, même si on ne se rend pas compte exactement de ce qu'il représente. Il faut avoir un regard suffisamment précis sur ce contentieux. Alors ça, c'est, je dirais, la globalité du phénomène. Et puis, il y a un cran en dessous, dans les cités, et là, il y a d'autres études qui ont été faites, le conflit de la loi commune et de la loi islamique. C'est-à-dire que beaucoup d'études montrent, si vous voulez, comment les valeurs de référence de beaucoup de jeunes et de familles aujourd'hui, c'est des valeurs de référence, non pas, comme le disait à l'époque Christian Bachmann, du patriotisme de cité, mais d'une référence religieuse, qui fait référence pour les jeunes, et pour lesquels la loi commune n'a plus de sens, parce qu'elle a le visage de la police, elle a le visage d'un juge très lointain, elle n'a pas, l'ambiance chaleureuse d'un climat familial, d'un climat communautaire, qui va, en quelque sorte, dans lequel il va baigner toute sa vie, et qui va l'entourer. Alors, cette question-là du conflit entre une loi islamique partagée dans les familles et dans les quartiers, qui est en conflit parce qu'elle n'est pas reconnue par la loi, je dirais, commune, elle est centrale. Et là, c'est une réserve que je fais sur votre livre. Je pense que vous évoquez effectivement le ciel des idées, la pensée politique. Vous évoquez beaucoup Marx et le néo-marxisme et la lucidité de Foucault en contrepoint. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des politiques de gauche, surtout municipales, qui se sont confrontées à l'altérité culturelle dans certaines mairies et qui ont tout de même, sur la viande halal, sur les piscines, dans beaucoup de domaines, qui ont, avec des résistances énormes du point de vue des républicains orthodoxes, qui ont quand même, si vous voulez, ouvert le jeu et introduit ici et là des pratiques différentes qui sont quand même, qui ne versent pas dans le communautarisme, mais qui versent dans le respect d'une altérité culturelle ayant une origine religieuse et qui ont une meilleure droit de cité. Et je pense que c'est à mettre au crédit d'une gauche municipale, en quelque sorte, que vous écartez, à mon avis, que ce n'était pas dans votre champ de vision peut-être, mais qui me semble quand même là être assez peu visible, mais néanmoins, quand on creuse un peu la question, on voit qu'elle a quand même une importance très nette, et l'Office de la laïcité ne s'y trompe pas quand il évoque ces questions-là. Donc ça, c'est une première réflexion plus générale. Maintenant, pour reprendre l'exposé de Richard, je rebondis sur la question des prisons, parce qu'ici, il y a beaucoup de spécialistes carcérales, et on a une vision, si vous voulez, très diabolique, très diabolisée. Richard a dit tout à l'heure que vous légitimiez, en quelque sorte, l'ennemi, mais la vision qu'on a de l'extérieur du traitement carcéral des prisonniers diabolise, quelque part, l'ennemi, puisqu'on veut le construire des unités dédiées, des systèmes de déradicalisation, mais surtout des centres spécialisés, en séparant les populations radicalisées des autres, etc., etc. Donc une vision un peu démonologique de cette population. Et alors, je trouve, alors, le rapport qui a été fait par une équipe de recherche qui s'appelle « Des hommes et des dieux en prison ».
Claire de Galambert,
Corinne Rostin et Cécile Béraud démystifie complètement cette question-là. « Des hommes et des dieux en prison », on est en plein dans notre sujet de ce soir. Qu'elle nous dit ? Elle nous dit « La religion est une ressource. Elle est une ressource pour ces gars-là. Elle est une contrainte pour eux, parce qu'il y a du caïda, il y a de la violence, etc. Mais c'est une ressource, c'est un bouclier identitaire, avec beaucoup de force. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, là, un travail d'intégration de ressources, de contraintes et de construction identitaire qui passe par le religieux pour des individus qui n'ont strictement aucune autre offre à leur disposition, précisément. Et là, on voit bien le travail qui est fait et dans le bouquin de Fassin, L'ombre du monde, il a beaucoup de mal à diaboliser les surveillants parce qu'il n'y a pas de racisme en prison. Bien qu'il aurait peut-être voulu, il a essayé, mais tu connais Didier, bon, il a essayé, mais il n'a pas trouvé. Et pourquoi? Parce que précisément, les surveillants appartiennent au milieu de la diversité culturelle aussi, et qu'ils sont portés à négocier un rapport à l'autre, à l'altérité, parce qu'eux-mêmes portent cette altérité. Alors il y a ce que le rapport des hommes et des lieux en prison évoque, c'est-à-dire une laïcité négociée, des laïcités locales négociées, qui sont pratiquées en permanence dans la prison, ne sont pas non plus angéliques. Cette laïcité négociée a pour but aussi de gagner la paix sociale en prison, et le sécuritaire est quand même là extrêmement présent, et le religieux est instrumentalisé aussi, mais néanmoins, dans beaucoup de cas, voire une grande majorité de cas, la religion agit comme une perspective d'intégration et de désistance aussi, pour toute une population qui est dedans et qui, effectivement, aspire à être dehors et qui conforte son identité, qui la préserve avec l'aide du religieux. Donc je pense que là, le religieux joue un rôle extrêmement important. Il fallait une étude de longue haleine, indépendamment des clichés qu'on peut lire à droite et à gauche, pour nous en persuader. Et ça me semble un point qu'il fallait souligner. La religion apaise, elle est une arme de résistance dans l'ordre carcéral, elle est un outil de résistance et de repersonnalisation. Et c'est, je crois, là le point qui me semble important. Elle n'est pas l'opium du prisonnier, pour paraphraser le mot de Marx, l'opium du peuple. Donc on est en plein dans votre démonstration pour cette fois. Donc on aurait pu effectivement le rajouter. Alors, le point sur lequel je me rallie à Richard pour vous poser une question, c'est la question du djihadisme. Moi, je suis... Alors là, on est en plein dedans, hein, actuellement. Hein. Il y a des procès en grand nombre à la filière de Strasbourg hier, avec Richard on suit dans un groupe du tribunal pour enfants, on suit des dossiers de mineurs autour de Syrie et d'Irak en particulier. Donc on est un peu immergé là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un écrasement par l'institution pénale de la dimension de révolte, d'idéal, d'aspiration à notre monde. C'est-à-dire que on a, comme vous dites dans votre livre, un imaginaire de la révolte que n'auraient pas démenti certains auteurs, un imaginaire de la révolte qui est glorifié par la propagande du djihad. Il y a une volonté d'aventure presque lyrique qui est lancée, dans lesquels ces jeunes se lancent, une vocation humanitaire aussi chez beaucoup d'entre eux. Ils arrivent sur scène, sur le territoire, et ils découvrent une violence inouïe, entre les groupes, etc. Ils nous la racontent, hein, dans les dossiers, dans les audiences. Et là, effectivement, un réflexe de peur et une volonté de se protéger d'abord, et puis ensuite de fuir. Certains restent, hein. Soyons pas non plus totalement gênés. On en retrouve un d'ailleurs qui sera un de ceux qui est de la filière de Strasbourg, qui sera un de ceux du Bataclan. Alors, qu'est-ce qui se passe que fait l'institution pénale à partir de là? Eh bien, elle va qualifier, criminaliser une violence qui se veut religieuse par des catégories pénales qui sont l'association de malfaiteurs en vue d'entreprises terroristes. J'insiste sur ce mot, tu parlais du prédictif tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu dis qu'il va lui tordre le cou. En deux mots, le prédictif, c'est on vous impute une intention de commettre un acte de terrorisme en vue d'eux, et les motifs de votre acte importent peu. Le mobile ne concerne pas le juge, c'est l'acte lui-même qui importe. Le problème, c'est qu'on n'a même pas d'acte dans cette incrimination que j'appelle écrasante. On a simplement des projets, une poussière d'actes, en quelque sorte, une réunion, un Facebook, des téléphones portables, etc. Et le parquet le parquet, pour construire sa démonstration, va prendre une masse d'informations énormes prélevées sur les Facebook, sur les portables, etc., et va découper comme ça, un package, une image, qui va être l'accusation. Et là, effectivement, quand vous dites sur votre Facebook, quand vous avez, par exemple, dans votre ordinateur 7000 images de décapitation, c'est écrasant à l'audience. Que là, on vous dit, mais comment n'avez-vous pas envisagé le meurtre de masse dès lors que nous avons la preuve que vous avez X images sur votre ordinateur, etc. Donc on va découper un profil d'accusation qui va être présenté comme étant à charge. Alors, voilà, la violence politique disparaît du prétoire. La violence idéale d'une partie de la jeunesse aussi, elle n'est même pas considérée comme une circonstance atténuante, parce que la politique pénale est tout à fait implacable à l'égard de tout ce qui, de près ou de loin, touche au terrorisme, et du coup, effectivement, elle n'est pas visible. Alors la question que je pose dans votre livre, c'est la question de la violence. Parce qu'à la fin de votre livre, vous évoquez, vous comparez les brigades, les brigadistes, de 36, les guerres d'Espagne, Malraux, le mot magnifique, l'apocalypse de la fraternité, etc. Et en même temps, vous dites, il y a trois différences entre cette époque-là et les djihadistes. Vous dites qu'il y avait une identité, un universel, une histoire qui ne sont pas du tout celles qu'on retrouve aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de la violence que vous n'abordez pas frontalement dans votre livre? Est-ce qu'il n'y a pas une interrogation à mener sur le sens de cette violence que Richard a commencé à mener tout à l'heure, au-delà de l'identité, au-delà de l'histoire, au-delà de l'universel? La violence des brigadistes en 36 n'est pas celle qu'aujourd'hui mènent les djihadistes. Entre une violence de guerre, celle des brigadistes, et une violence indiscriminée, massive, que mènent les djihadistes aujourd'hui, ça me semble très différent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière cela, le débat que vous évoquez aussi, Sartre, Camus, Merleau-Ponty, dans les années 50, est-ce qu'il y a une violence politique qu'on estimerait progressive et donc légitime parce qu'elle a une cause juste? Thèse, vous mettez là. Thèse de Sartre, à l'époque. Après, il a un peu reculé. Hein, quand il y a eu l'action directe, il n'a pas été jusqu'au bout. Alors que Camus disait, non, il y a une violence, tout qu'elle vienne, elle est condamnable. Et donc, nous la condamnons moralement et politiquement, qu'elle vienne des parachutistes pendant la guerre d'Algérie ou du FLN, etc. Que ce soit la torture, que ce soit les exécutions sommaires. Donc je trouve qu'il manque dans votre... Pardon de vous interpeller un peu brutalement, il manque cette réflexion sur la violence qui me semble importante, et je conclue sur Camus et sur les justes. C'est une raison qu'on n'a pas aujourd'hui, et qui rejoint ce que disait Richard. Dans les justes, Camus oppose deux terroristes, deux figures du terrorisme. La figure du terrorisme Stéphane, qui est le terroriste absolu, déterminé, lui-même qui a été torturé, et qui est prêt à aller jusqu'au bout, y compris à tuer femmes et enfants, s'il le faut, d'une manière indéfinie. Et puis la figure de Kaliaïev, qui ne jette pas la bombe quand il doit la jeter dans la calèche du grand-duc, parce que dans la calèche, il y a la femme et les enfants. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il nous faut que nous réfléchissions à cela, parce que nous confondons, nous ne voyons que des Stépanes, et nous oublions qu'il y a des Kaliaïev. Et en particulier, tous ces jeunes que l'on voit nous et que les audiences, que les tribunaux voient, etc., ils ont cette vie, ils projettent la figure du terroriste radicalisé dans toute son horreur, et ils oublient que ces jeunes-là, effectivement, ils n'ont pas jeté la bombe, et ils sont revenus en France. Ils sont revenus en France, parmi nous. Et ce facteur-là, cette réflexion-là qui est menée dans des parcours individuels, il faut peut-être la considérer pour avoir une mesure plus juste, plus exacte de ce que représente notre perception du terrorisme, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la vision actuelle du gouvernement et du parquet. Et de la police, évidemment.
Merci Denis d'avoir rappelé ce que peut être un vrai juge. On va vous laisser peut-être répondre à certaines des questions que vous avez posées, puis après on donnera la parole à la salle.
Oui, bah, écoutez, merci beaucoup pour vraiment ces lectures précises et critiques. Et,
bah,
c'est féconde et c'est très. C'est vraiment un beau cadeau de bénéficier de regards. Il n'y a rien de plus précieux que de bénéficier de regards comme ça, exigeants et fermes. Alors, j'ai pas vraiment. Comment faire Bon, là, pour commencer sur la question de. Bah, quand même, la question de la violence, elle est extrêmement présente pour moi, notamment justement quand je fais cette comparaison entre les brigadistes et les djihadistes, les brigadistes en Espagne et les djihadistes en Syrie, parce que justement, parmi, j'essaie de montrer pour, non, voilà, effectivement participer de ce processus de relégitimation, l'idée qu'on ne peut pas combattre cet ennemi si on ne le prend pas au sérieux, et on ne prend pas au sérieux aussi une certaine espérance, un certain idéal qui met en mouvement les gens dans tout ça. Donc j'essaie de montrer tous les points communs, parce qu'il y en a qui sont très frappants en fait, quand on regarde de près sur les même les courriers, etc. Mais dans les différences, il y a quand même le rapport, un certain rapport à l'histoire, à la politique. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent en finir avec la politique et avec l'histoire telle qu'on l'a conçue, alors que les brigadistes voulaient porter à incandescence la politique et faire aboutir l'histoire telle que Marx la pensait notamment. Mais c'est surtout le rapport à la vie et à la mort, et là c'est très présent. La question pour moi de la violence est extrêmement présente. Donc je parle beaucoup des décapitations, etc. Et y compris, je me sers de Derrida, qui dès les années 90-95 parle du retour machinal du religieux et de cet acharnement sur les corps, etc. C'est vraiment des passages très beaux. Et pour moi, un des grands trucs, c'est ça, c'est le rapport à la violence et à la mort. C'est l'éloge de la mort permanent chez eux, alors que l'éloge de la mort était en face en Espagne, était dans le vive la mort de Franco et de ses troupes. Et qu'il y a là quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire dans l'idée que, oui, ces corps, les corps sentent le mus, et les martyrs sentent le mus, etc. Et que là, on a des gens qui veulent en finir, ils ont hâte d'en finir, ils ont pris une décision à l'égard du réel, et apparemment, ils comptent bien s'y tenir. Et cette décision, le rapport à la mort là-dedans est très présent. Donc là, la question de la violence, je l'aborde beaucoup là, pour faire la distinction, notamment avec les brigadistes, mais il y aurait mille choses à dire, effectivement, et en particulier avec. En particulier dans le domaine anthropologique et psychanalytique et dans le rapport à la pulsion de mort, il y avait une très belle interpellation de Derrida, la psychanalyste, qui disait « Vous qui avez affaire à la pulsion de mort tous les jours sur dans votre cabinet, vous devriez avoir quelque chose à dire sur ce qui se passe en ce moment quand même. Vous ne pouvez pas rester silencieux, toujours. Mais alors, le problème, c'est la question de la ressource, justement. Moi, j'ai une grosse... En fait, il y a une ambiguïté. Moi, j'ai bénéficié pour la réception de ce livre de beaucoup de malentendus bienveillants. C'est très bizarre. Et notamment, il y a des gens, vraiment, je pensais qu'ils seraient très critiques et très durs, et qui ont été, en fait, enthousiasmés par le livre, parce que, justement, ils voyaient ça comme une ressource. Le livre, c'est une ressource. Hein, c'est une rébellion. Par exemple, pour le nommer, quelqu'un comme Edoui Plenel, le chapitre sur la guerre d'Algérie, etc., je pensais qu'il y aurait une discussion. Et il m'a dit, non, il a fait un truc public, en disant, mais non, parce que justement, moi aussi, je pense que la religion, c'est la ressource pour les dominer, la ressource de la rébellion, la ressource d'une forme de... Alors vous avez parlé d'intégration, etc. Le gros problème, c'est intégration à quoi? C'est-à-dire, intégration à quoi? Parce que moi, je suis complètement là-dedans, et je suis tout à l'heure dans toutes les discussions, je suis toujours à front renversé. C'est-à-dire, si je suis face à des gens un peu proches de Valls, c'est toujours un discours très un peu opposé, puis dans l'autre sens... c'est très compliqué ces sujets-là, on est toujours à fond renversé, toujours sur la corde raide. Mais intégration à quoi? Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, et c'est pour parler aussi de la question de l'espérance ou de l'idéal, quand vous utilisez le mot idéal, effectivement, moi il y a eu un papier de Bernard-Henri Lévy qui a dit que ce livre était un cadeau djihadiste, parce que ça relégitimait, que c'était une façon de banaliser le mal, disait-il, parce qu'on parle à leur propos d'espérance, ou justement l'idée que c'est pas le simple appétit de détruire, ou de haïr, ou de tuer, ou de décapiter, qui fait qu'une jeune fille d'Hippocagne dans un bon lycée se barre du jour au lendemain en Syrie. Je pense pas qu'elle se soit réveillée un matin en disant « je suis un monstre, je vais aller décapiter plein de gens ». C'est pas ça qui se passe concrètement, même dans leur discours, dans leur façon de... Effectivement, il y a en permanence un rapport à la justice, il faut voler au secours de mes frères qui sont en train de se faire massacrer, etc. Il faut rompre avec ces sociétés médiocres, matérialistes, enfin, tous ces mensonges de la démocratie, enfin, qui reprennent tout un... Mais intégration à quoi quand même? C'est-à-dire, typiquement aujourd'hui, un des problèmes qui se pose, c'est qu'on voit toujours tout en termes national et local. J'ai commencé tout à l'heure en disant que j'avais été frappé par cette personne qui avait levé la main, qui a été intervenue en disant qu'il y a un problème des banlieues françaises. On a un problème des banlieues. Comme si ce qui s'était passé en janvier 2015, c'était un problème non seulement français, mais des banlieues françaises. Quand il y a eu là les attentats à Bruxelles, on a convoqué le pauvre adjoint au maire de Molenbeek, qui était sur BFM jour et nuit, et on lui disait espèce de tocard, vous n'avez rien vu venir, c'est toute votre faute, etc. Et évidemment, il y a plein de problèmes locaux, il y a plein de problèmes nationaux, etc. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a un mal incroyable à voir que quand même cette violence, elle s'inscrit, elle est sans frontières. Et c'est aussi une des puissances de cette énergie religieuse, c'est qu'elle est sans patrie ni frontières. Ça rejoint la question de la loi aussi, parce que cette loi-là, elle n'a pas grand-chose à faire des lois nationales, telles que eux la pensent. Et donc, intégration à quoi? Quand on voit, par exemple, là je vais dans l'autre sens, mais on réagit toujours, que l'université Al-Azhar, plus haute instance, plus haute autorité du monde sunnite, a fini par condamner donc 200 000 étudiants au Caire, des gens extrêmement érudits à la tête de l'université Al-Azhar. Ils ont fini par condamner l'État islamique fin 2014 au seul motif que l'État islamique avait brûlé vif un pilote dans une cage et que ça ne faisait pas partie de l'arsenal pénal islamique. Franchement, c'est un problème. C'est un problème, c'est-à-dire que là, je pense que une des priorités, et j'ai tout un chapitre là-dessus qui s'appelle « Rien à voir avec l'islam pendant longtemps », c'est de soutenir quand même, d'être conscient qu'il y a quand même une guerre civile mondiale gigantesque au sein du monde musulman, dans laquelle la question de la loi est centrale, et donc de ne pas se voiler la face là-dessus, et de soutenir, de porter, de valoriser tous les intellectuels, les théologiens musulmans, ou les simples croyants musulmans, qui sur ce front-là, essayent de soustraire leur foi justement aux docteurs d'une certaine loi. Christian Jambet dit toujours ça, c'est les docteurs de la loi qui veulent faire de l'islam un pur système de contraintes et d'obéissance, etc. Mais qui va très très loin. Quand on voit qu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un comme Rachid Benzine n'a aucun problème à dire que les principaux centres de transmission et d'enseignement de l'islam mondialement sont peut-être plus proches d'une certaine radicale, enfin de quelque chose de dur du point de vue justement de ce rapport à la loi que de l'islam des Lumières, et etc., qu'on appelle de ses voeux partout, ça veut dire que l'intégration, s'intégrer à partir du moment où tout ça est sans frontières, je pense que oui, ça pose un problème quand même. C'est oui, une ressource, mais pourquoi? Une ressource de construction identitaire, mais à quoi? Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je ne crois pas du tout, non seulement à ces trucs de déradicalisation justement, où un peu comme dans la question des sectes, on vide les problèmes de l'enjeu de croyance, et on parle de manipulation mentale, et dans la déradicalisation, on voit bien que chez Dounia Bouzard, pour ne pas la citer, mais la question de l'islam est toujours exfiltrée tout de suite. La question de la croyance, ou de la foi, ou de la certitude vécue, de l'élan intime, de tout ce que vous voulez, de la religion comme mode d'être au monde, pas comme justement comme pur comme système idéologique, mais comme mode d'être au monde, c'est très très vite évacué. Et donc il faut pas l'évacuer. Mais la déradicalisation, c'est comme pour moi, quand j'entends ça, je vois bien que c'est une manière de faire comme si ça n'existait pas. Donc la question, c'est le printemps républicain, par exemple, moi je ne comprends pas ça, le printemps républicain. C'est-à-dire que c'est quand même une manière de faire comme si on avait face à nous quelque chose à nouveau de national. Partout, il y a eu ce problème en Suisse, de ces enfants qui ont refusé de serrer la main de leur prof dans une école, etc., parce que c'est la tradition. Je trouve ça assez beau d'ailleurs, qu'on serre la main de son enseignant comme un geste de transmission, enfin un truc. Moi je trouve ça assez beau, peut-être que en vieillissant je deviens de plus en plus réac, mais je trouve ça assez beau. Et il y a eu, là aussi, ces gens-là ne respectent pas les valeurs suisses. Chacun raisonne en termes à chaque fois locaux ou nationaux, alors que quand même on a affaire là à quelque chose dont toute la force et la puissance, c'est d'être sans frontières. C'est quand même ça leur grande force. C'est qu'ils sont face à eux des gens qui ne proposent que des petites espérances locales ou nationales, avec des discours très situés. Et eux, ils ont effectivement ce goût du militant sans patrie ni frontières, comme on disait à une certaine époque. Et ils ont cette force. C'est-à-dire que la façon qu'a l'État islamique de mettre en avant les djihadistes étrangers, c'est aussi ça. C'est de s'inscrire dans une tradition quelque part internationaliste où on la ramène en disant « Nous, on a cet idéal et cette cause qui attire des jeunes du monde entier, quel que soit leur milieu, quelle que soit leur culture, etc. » Et bien vous pouvez toujours vous agiter avec vos petites valeurs locales qui ne sont pas les mêmes en Suisse, en France, et ne parlons pas d'ailleurs, etc. Nous, on est ailleurs et on est au-dessus de ça. Donc, moi, je suis complètement pour dire, ne pas penser, par exemple, que le voile est un pur outil d'asservissement idéologique, comme l'a dit Valls. Je trouve ça incroyable de dire que toute personne qui porte le voile ne fait qu'émettre un signe d'allégeance idéologique. Donc je pense que là aussi, il faut arriver à comprendre la multiplicité des pratiques et des vécus et de ce que ça peut impliquer pour, dans la tête de quelqu'un. Et en même temps, dans l'autre sens, dire, par exemple, pour les prisons, oui, mais non, c'est une façon de s'intégrer, une ressource de construction identitaire. Oui, mais le problème, c'est à l'horizon de quoi ? À partir du moment où aujourd'hui, et là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de vous disiez, toutes les religions, l'hindouisme, etc. Oui, mais à nouveau, il ne faut pas trahir, il ne faut pas poignarder dans le dos tous les intellectuels musulmans qui se battent sur ce front-là, quand eux disent qu'il se passe quelque chose de spécifique en islam, par exemple. Parce que bien sûr, hein, vous parlez en Israël, les gens qui ont mis le feu à un foyer palestinien et qui ont entraîné la mort d'un bébé et de ses parents, ça prouve bien qu'il y a ça partout, il y a dans toutes les religions. Il y a évidemment toutes les religions qui produisent leurs crispations dogmatiques, leurs rejeux meurtriers, leurs avatars sanglants, etc. La question, c'est que par exemple en Israël, il viendrait à l'esprit de personne de dire que ces gens qui ont tué n'ont rien à voir avec le judaïsme. Vous voyez ? C'est évident. Tout le monde dit que ce sont des extrémistes juifs. Tout le monde le dit, enfin, même Netanyahou l'a dit. Ça, c'est... Donc c'est évident. Et la question, c'est pourquoi nous, ça nous gêne tellement et pourquoi notre réflexe, c'est de dire non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien. Alors même que, à l'évidence, il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou non, dans le monde musulman aujourd'hui. J'étais très frappé de voir que ça apparaît maintenant. Et d'ailleurs, ça se passe sans nous, en fait, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, même les journaux qui ont le plus de mal ou plus de réticence à parler de religion, à aborder ces enjeux, etc., sont envahis par le lexique religieux, sont obligés d'expliquer en permanence la différence entre les sunnites, les chiites, parler... En permanence, tout est comme ça, et les mêmes qui pensent que ça n'est rien sont obligés d'en parler pour considérer que ce sont des petites étiquettes qui recouvrent des enjeux purement sociaux, idéologiques, etc., mais quand même, ils sont obligés. J'étais frappé par cette formule incroyable d'un philosophe comme Étienne Balibar, que je respecte beaucoup, qui est quand même un grand post-marxiste, si j'ose dire, qui a beaucoup d'influence aux États-Unis notamment, et qui a écrit dans un article le lendemain des attentats de janvier 2015, il a écrit dans Libération un article où il a écrit cette phrase, il dit « Notre sort repose entre les mains des musulmans ». C'est incroyable comme phrase pour un marxiste comme Balibar. C'est-à-dire que cette idée qu'il se passe quelque chose d'extrêmement puissant et violent au sein du monde musulman, et qu'il faut quand même se pencher dessus si on veut voir la singularité de ce qui se passe pour tout le monde, parce que c'est mondial. Et de ce point de vue, moi je cite beaucoup un autre marxiste, qui s'appelle Gilbert Achkar, qui est inconnu, enfin tout le monde s'en fout, mais c'est très important, parce que Gilbert Achkar, c'est quelqu'un, c'est la 4e internationale, c'est très marginal, tout ce qu'on veut, mais il a tout suivi depuis la révolution iranienne, tous les combats d'extrême gauche, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux alliances en Grande-Bretagne, avec certains groupes musulmans, etc. Il a fini par conclure cette chose, de dire, il se passe quelque chose de particulier. Nous autres, la gauche radicale ou l'extrême gauche, on a cru que, parce que, par exemple, on avait pu s'allier avec les théologiens de la libération et les chrétiens en Amérique latine et fonder avec eux des partis ouvriers, des syndicats ouvriers, etc. On avait cru qu'il y avait un compagnonnage possible entre une certaine radicalité révolutionnaire, marxiste, et des gens qui justement prennent comme ressource politique la religion pour une forme d'émancipation. On a vu que c'était possible avec les chrétiens en Amérique latine et la théologie de la libération. On s'est dit que ça va être pareil avec l'islam politique. Et... moralité, au bout de quelques décennies d'expérience, on s'aperçoit que partout où l'islam politique monte ou triomphe, la gauche est en sang. C'est pas que, contrairement à ce qui s'est passé avec la théologie de la libération. Et donc on voit là aussi quelqu'un comme Gilbert Achkar, toujours pour parler de la singularité de ce qui se passe, dire peut-être que nous autres marxistes, il faudrait qu'on essaie de comprendre pourquoi l'intégrisme prolifère tellement violemment en islam et pas ailleurs, et peut-être qu'il faudrait qu'on revienne au texte, qu'on ait une sociologie comparative des religions. Et ça aussi, c'est fou de voir que le NPA, les gens se sont écharpés sur les versets du Coran à l'occasion de cette affaire sur laquelle je reviens, là, d'Avignon, avec cette candidate voilée, etc. Donc il y a quelque chose quand même qui nous échappe largement et qui, dans une certaine tradition politique, et notamment à gauche, fait l'impasse. Et là, à nouveau, il faut faire attention, je pense, à la fois bien dire tout le temps que l'islam, comme spiritualité, comme pèlerinage intérieur, etc., ça n'est pas le djihadisme et l'islamisme, etc., et en même temps, ne pas tout diluer, ne pas faire l'impasse sur le fait qu'il se passe quelque chose, justement, de très spécifique, de façon explicite aujourd'hui, dans le monde musulman. Voilà, c'était pour... Là, je reprenais... Je me balade d'une chose... à l'autre. De ce point de vue, d'ailleurs, il y a plein de ressources là aussi, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus et qui sont très très fort. Dans les choses sur lesquelles je voulais... Peut-être que je suis trop long, non? Alors on va peut-être venir à la discussion. Voilà. Donc j'ai pas répondu, non, parce que j'avais peur de, d'avoir l'air de pas répondre du tout. Il y a plein de choses en tout cas qui sont très riches et je veux pas. Et je trouve ça très beau le ce n'est pas sans lien. C'est pas sans lien effectivement. Voilà.
Je voudrais bien dire quelque chose. Il faudrait peut-être faire un peu finalement d'anthropologie historique, c'est-à-dire que le comment. On est tous d'accord sur la violence. Non, ces jeunes ne sont pas des villes. Acculturé, sûrement pas. Mais le Coran est le dénominateur commun, le ciment, on va dire. Mais il y a autant de lectures de Coran que de mouvements. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites, et au fond, si on peut déplorer les attentats de Paris, de Belgique et ailleurs, c'est le monde musulman qui est le premier victime de cette violence. Regardez ce qui se passe là-bas, c'est par dizaines de milliers. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites qui se déchirent, et puis vous avez les salafistes. Les salafistes, mouvement qui est né en Arabie Saoudite, et au fond, qui. Moi, je parlerais plutôt d'idéal, qui a remis au goût du jour l'idée selon laquelle on va reformer le califat du Moyen-Âge. Ce califat qui allait tout de même de chez eux jusqu'à l'Espagne, etc. Et au fond, c'est un idéal. Bien sûr, on peut déplorer la violence, mais je pense qu'on peut le déplacer sur un terrain politico-historique aussi. Et après tout, ça peut être un idéal pour ces jeunes que de reconstituer ce califat. Et avec une lecture très approximative et très personnelle du Coran. Parce qu'effectivement, il faut dire à peu près n'importe quoi au Coran. Mais est-ce très utile de connaître le Coran et de l'analyser sur le coup des lois? C'est pour ça que je parle de ciment. Enfin bon, c'est une idée, c'est tout.
Non, mais moi je suis totalement d'accord avec vous. Enfin, justement, moi ce qui m'a été beaucoup reproché, c'est de faire de ce combat-là un idéal. Enfin, de faire de. Oui, je parle, mais. Mais donc je suis d'accord.
Et là-dessus, vous avez Jacqueline Chabi qui est historienne.
Tout à fait.
Vous la connaissez aussi.
Bien sûr.
Et donc, ce sont les idées. Et elle est historienne. En fait, elle était professeure d'université d'Arabe médiévale. Et quand vous lisez ses bouquins, son dernier bouquin, c'est Le Coran décrypté. Et puis elle en a écrit d'autres. Mmh. Et ce sont ces idées-là. Ce sont plutôt des idées historico-politiques. Ce qui n'excuse en rien la violence et ce qui se passe ici, on est complètement d'accord. Hein.
Mais justement, ce que vous dites aussi souligne un point qui est très important pour moi, c'est que ce n'est pas un choc. Oui, on voit toujours ça comme un particularisme. Parce que vous dites qu'il y a un idéal de renouer avec un truc qui était... Non, c'est un choc d'universalisme. Et c'est un universalisme conquérant. Voilà. C'est une question aussi qui se pose. C'est-à-dire que c'est pas, on voit toujours ça comme si c'était des gens qui défendaient des petites valeurs particulières contre un universel qui est le nôtre, etc. Non, vous avez là des gens qui revendiquent un universel qui est le seul qui vaut d'être, qui est le seul digne de ce nom. Donc ça pose un grand problème.
C'est pour ça qu'on ne va pas les déradicaliser, je veux dire, ça n'a aucun sens.
Ah oui, sur la déradicalisation, c'est très drôle. Vous avez David Thompson, vous connaissez David Thompson, il est en train de faire ses papiers là sur les revenants, il avait fait ceux qui étaient partis, et il a plein de gens là qui sont revenus et qui sont dans une autre optique opérationnelle, si j'ose dire, mais qui tiennent tout à fait bon sur leur désir, comme dirait l'autre, et surtout sur leur doctrine. Voilà.
Oui, j'aurais trois remarques à faire. J'ai lu le livre avec énormément de plaisir et d'attention, et je suis tout à fait d'accord pour dire que, en fait, l'islam, ou plutôt l'islamisme a à voir avec l'islam. Comme le dit fort bien Jean Gardon, je sais plus quel humoriste avait dit, c'est comme si l'alcoolisme n'avait rien à voir avec l'alcool. Donc, là, je suis tout à fait d'accord. Le fait qu'il y ait... À un moment donné, dans le livre, je ne savais pas si après les réactions qu'il y a eu après les attentats, en particulier en janvier, parce que c'est vrai qu'après ce novembre, il y a eu, comme Birnbaum l'a dit, une modification. Il y avait d'un côté le pas d'amalgame, d'un côté, et de l'autre côté, il n'y avait rien à voir avec l'islam. Alors, rien à... je crois que ce n'était pas la même chose, en fait. Pas l'amalgame, c'était parce que, tout simplement, en France, il y a des musulmans qui sont laïcs, même si certains disent les deux choses sont incompatibles. Non, il y a des... moi, j'en connais, des musulmans laïcs. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais ce sont des Arabes et qui sont athées. Il y a des Arabes qui sont juifs, même s'ils ne sont pas très nombreux en France. Il y a quelques Arabes chrétiens aussi. Donc c'était ça le pas d'amalgame, c'était faire attention. Et moi, le pas d'amalgame, j'avais trouvé tout à fait justifié. Je trouvais que c'était bien. En revanche, je n'étais pas du tout d'accord pour dire que ça n'avait rien à voir avec l'islam. Ça a forcément à voir avec l'islam. Et... à gauche, il y a quand même des gens qui, depuis longtemps, disaient quand même que ça fait avoir avec l'islam. Ça remonte pour la gauche, cette idée au djihad des années 80 en Afghanistan, où il y avait des Français, ça on l'oublie trop souvent, mais dans les années 80, que pour chasser les soviétiques, aller faire le djihad en Afghanistan, il y a des Français qui partaient. J'ai des amis à moi qui sont partis non pas faire le djihad, mais qui ont été recrutés par Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières pour apporter de l'aide aux Moudjahidines. Donc il y a une tradition de la gauche française. Birnbaum, il parle de l'Algérie où il y a eu des gens qui sont allés pour aider les combattants algérien à l'époque de la décolonisation, mais cette tradition, elle a duré fort longtemps, et elle continue encore aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut soutenir dans les combats les djihadistes. Donc, non, je ne suis pas perdu, parce que j'aurais beaucoup à dire sur ce bouquin que j'ai trouvé fort intéressant. Juste un dernier point. Je pense que le djihadisme, ou plutôt l'islamisme, le djihadisme étant cette forme on veut dire, armée de l'islamisme, a rempli un vide après l'échec qu'il y a eu dans le monde arabo-musulman. L'échec du panarabisme, l'échec du socialisme, qui était porté en fait par des laïcs aussi, et l'échec du nationalisme arabe, qui était porté en particulier par Nasser, et par cette lutte qui a eu au sein même du monde sunnite. Au sein même du monde sunnite, entre d'un côté ceux qui. Entre en particulier l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et les choses se sont après compliquées avec sans doute la révolution iranienne.
On va peut-être prendre d'autres questions. Olivier en avait une, Alexis aussi.
Oui. Donc, en fait, par rapport à la gauche, hein, puisque c'est votre sous-titre, est-ce qu'on fout la gauche, elle ne dirait pas, et les hommes politiques, mais la raison, effectivement, c'est l'islam est très important là-dedans. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, justement, ça rejoint un peu le débat, il ne faut pas le dire, parce qu'il y a 3 millions de musulmans en France, et si on le dit qu'il y a un lien, à ce moment-là, l'amalgame vient se faire, et politiquement, c'est très dangereux. Mais pour l'analyse, finalement, peut-être que les pouvoirs publics, de gauche notamment, ça serait d'accord. Hypothèse.
Ah, je propose qu'on prenne d'autres questions.
D'accord, je dis juste.
Alexis ?
Alors, moi, c'était au sujet de la question des radicalisations et vous êtes intervenu sur cette idée que c'était tout. Enfin, que dans ce mouvement djihadiste, il y avait des éléments porteurs d'idéaux et que c'était une des motivations. Donc, le terme des radicalisations, je crois que c'est quelque chose qui, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup gêné au début où cette terminologie est apparue. Et en fait, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'il y a une dizaine d'années, j'étais intervenant en détention à la santé, et du fait du colon antiterroriste à Paris, j'ai eu l'occasion, comme jeune épiste, d'accompagner beaucoup de personnes qui étaient soit inculpées, soit prévenues, soit condamnées pour des faits de terrorisme. Et donc, en fait, au moment janvier dernier, ça m'a replongé dans cette période et dans les rencontres que j'y avais faites. Je crois qu'il y a deux. Enfin, je vais essayer de réorganiser un petit peu ma question. Donc, premièrement, par rapport à la problématique de l'idéal, on entend deux théories. Il y a cette idée de l'idéalisme, et puis il y a aussi une théorie de l'embrigadement par rapport au départ vers le djihad. Et je crois que ces deux choses ne sont sans doute pas dans une exclusivité. Il y a sans doute les deux composantes qui coexistent et même sans doute qui s'entremêlent. Et donc je me demandais, est-ce que vous aviez des éléments sur la part que chacun de ces mouvements pouvait avoir dans le phénomène. Et donc je vais en revenir à la question de la déradicalisation. Donc déjà, ces deux parts, moi ce que j'y vois, c'est dans le mouvement de Daesh, il y a effectivement d'une certaine manière une motivation à agir et puis des moyens pour mettre en œuvre cette action. Du côté de ce qui va créer une motivation, ça va être cet idéal que vous décrivez. Et puis du côté des moyens, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'éléments de manipulation, d'embrigadement qui vont conduire les gens à se fanatiser, à s'engager dans des choses, des gens qui n'étaient pas prêts à perdre leur vie quelques temps auparavant et qui finalement vont petit à petit glisser vers des choses beaucoup plus radicales et plus voir ce qu'ils sont en train de faire, enfin plus voir. Non, là je vais peut-être retirer ce que je viens de dire, mais en tout cas, c'est des évolutions progressives. Et donc maintenant, pour en venir à la déradicalisation, ce que je voulais dire, c'était que, en fonction du parcours que les gens ont fait, de leur positionnement par rapport à ce qu'ils assument véritablement un idéal, d'une certaine manière, avec une assez grande part de liberté, ou au contraire, s'il y a des gens qui ont subi un embrigadement, et entre ces deux pôles-là, selon la posture et le parcours que la personne a fait, il me semble qu'on va sans doute être amené à accompagner ou à prendre en charge la personne, à la fois dans la réponse judiciaire et dans la prise en charge pénitentiaire et dans la prise en charge que la société peut faire dans la troisième phase, c'est-à-dire le retour en société qui arrivera un jour, et je crois que c'est une des vraies questions aussi à poser, c'est comment on est prêt à faire revenir parmi nous et à retrouver ces gens-là et à les revoir comme nos concitoyens. Dans ces deux polarités, est-ce que vous pouvez analyser un petit peu et alors je pense entre autres par rapport à la théorie de l'embrigadement aux actions qui se mènent dans l'association de Dunia Bouzard, dont j'ai vu tout récemment il y a un film qui va sortir au mois de septembre qui s'appelle Le ciel attendra et qui présente l'action de cette association. Je connaissais pas du tout les modes d'action, mais j'ai été extrêmement frappé par ce qui est présenté dans ce film et par les témoignages qui ont eu lieu dans le débat. C'est une projection qui était dédiée qui était à destination des familles accompagnées par le centre, l'association que conduit Dunia Bouzard. Et donc c'était une salle remplie de parents, d'enfants revenus de Syrie, d'enfants qui n'étaient pas partis, des gens qui avaient déjà subi l'action de la justice, des prévenus, tout un tas de... Vraiment, et c'était... Alors évidemment, on est typiquement sur la partie de la théorie embrigadement, et donc c'était ça qui ressortait dans le film et qui ressortait dans les échanges qu'il y avait. Mais voilà, c'est peut-être pas une question très claire, mais
est-ce que vous pouvez réagir à ça? Oui.
Bon, il y a une autre question là.
Non, c'est une question par rapport à la gauche et l'éducation en fait. Bon, je dis, moi, ça m'a pas entendu depuis le lycée et le collège. Et c'est quelque chose qu'on traite vraiment très peu, c'est-à-dire l'histoire du monde musulman, et notamment on est sur le califat, et j'ai pu citer une conférence avec un monsieur qui s'appelle Nabil Moulim, qui parlait de l'histoire du califat. Et en fait, on voit que le califat, en fait, dès le début, a jamais été vraiment grand et étendu, et que ça a été plusieurs califats, etc. Et c'est quelque chose, moi, que je voulais revenir, parce que j'ai pas forcément trouvé dans votre livre, c'était la place de la gauche et de l'éducation dans justement sa compréhension des religions et donc des différentes radicalisations qui dévoilent.
Sophie ?
Oui.
Non, je reprends l'étudiante. Patrice ? Oui. Et Jean-Pierre après ?
Non, moi je voudrais juste, alors peut-être un point, souligner un point, peut-être qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui est la question des formes de violence. Que vous abordez en citant Derrida et en distinguant deux formes de violence, une qui utilise l'hypermodernité, quelque chose de très connecté, et l'autre avec des formes d'actes violents très archaïques qui viennent atteindre comme ça le corps avec une petite main nue, etc., quelque chose qui décorporalise. Alors évidemment, dans ces formes de recours à l'art dont on peut interroger, hein, je reviendrai, sont-elles sans lien, en lien, et qu'est-ce qu'elles traduisent, de, qu'est-ce qui est comme ça du religieux dans ce recours à cette romance archéologique ?
Jean-Pierre, moi je risquerai une question après, mais ça sera la dernière d'ailleurs.
Ça tombe bien, c'est une question.
Vas-y, vas-y.
Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'était que cette question de légitimation de ce qu'on pourrait appeler l'ennemi. Je pensais par exemple qu'après l'attentat contre Charlie, un des terroristes en sortant a dit le prophète est vengé. Donc de ce point de vue-là, c'est ce qui légitimait son acte. Je pensais aussi, toujours dans le même ordre d'idées, mais de l'autre côté, lorsqu'il y a eu les caricatures sur le prophète, on a pensé dans les pays occidentaux, en Europe, qu'il était que la liberté d'expression était légitime, ce qui n'était pas reconnu de l'autre côté. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, c'est bon, la religion légitime du point de vue des terroristes leurs actes. Mais quel est le contenu exact de cette légitimation à part dire que le prophète est vengé? On n'a pas besoin de chercher très loin pour... Il suffit de l'avoir entendu. Alors, quel est le contenu de cette légitimation et qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas si j'étais très clair. Très bien, il vend le prophète. So what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Bon, c'est so what la question.
So what, d'accord. Ça, c'est une bonne question.
Alors, moi, c'est une question qui n'a strictement rien à voir, mais qui avait à voir avec les raisons pour lesquelles je pensais qu'il était intéressant et on avait convenu de vous inviter. Au-delà du phénomène du djihadisme lui-même, moi, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur, à la lumière de votre livre et de ce que vous constatiez sur la multiplicité des disciplines, des savoirs qui étaient mobilisés pour expliquer le phénomène, moi j'ai le sentiment quand même que, je rappelle que ce livre, il est édité en janvier 2016, nous ne sommes qu'en juin 2016. J'ai l'impression qu'en 6 mois, il y a un certain nombre de choses qui se sont, à la fois détachées au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est sorti d'une espèce de bouillie de chercheurs de toutes les disciplines, enfin, excusez-moi pour les chercheurs, hein, enfin, je veux dire, de masse de disciplines, d'intervenants, avec en plus parfois des égos, des rivalités de territoire ou d'égos, enfin bon, et qu'on arrive à y voir un tout petit peu plus clair maintenant, et qu'il est à peu près évident qu'en tout cas, pratiquement toutes les disciplines, enfin, qui en l'occurrence sont celles de la criminologie, il y en a une cinquantaine, ont quelque chose à dire, et qu'il faut faire attention à n'en oublier aucune. De la même manière qu'il ne faut pas oublier le phénomène religieux, il ne faut pas non plus oublier, il y a des disciplines, je ne sais pas, il y a l'éthique, il y a la démographie, il y a toutes celles que vous indiquez, plus d'autres. Et j'ai l'impression qu'on, ça, je ne sais pas si c'est votre bouquin, mais en tout cas, on avance et on est en situation d'un petit peu mieux comprendre, parce qu'on a un tout petit peu plus de... d'ouverture, je dirais. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais est-ce que vous le confirmez?
Qu'est-ce que... Oui.
Non, mais allez-y, alors, d'accord.
Merci beaucoup. Non, ce what, c'est pas... Non, je vais les garder pour la fin, parce que c'est très difficile. Donc j'espère qu'il n'y aura plus le temps pour y répondre. Mais... c'est la sonnerie, c'est quand même pour la cour de récré.
C'est moi qui sonnerai.
Donc, très bien. Non, mais pour connecter, parce qu'il y a deux questions qui me semblent proches, finalement. C'est celle que vous venez de poser et celle que monsieur a posée sur le... c'est un truc très politique, la gauche a dit ça, mais parce qu'il y a des millions de musulmans et donc c'est très dangereux l'amalgame. Évidemment que c'était l'intention très forte et tout à fait louable d'éviter l'amalgame en question. Mais tout mon problème, mon propos, c'est essayer de montrer que c'est beaucoup plus profond, quoi, que je pense que vraiment ils y croient. C'est-à-dire que je pense que. Il y a beaucoup de gens au sommet de l'État et dans beaucoup de milieux, etc., qui croient vraiment. Qu'il n'y a rien à croire dans tout ça, que c'est, la croyance n'est pas en jeu. Et par exemple, la petite scène qu'il y a eu à l'Elysée qui m'a beaucoup frappé, où le président iranien devait venir à l'Elysée, et cette histoire de vin où ils ont dit mais non, on n'a pas envie de participer à une dégustation de vin à table comme c'était prévu. Et il y a eu une petite polémique qui est montée là-dessus. Et l'entourage de François Hollande a dit mais on ne comprend pas cette histoire de cette polémique est dérisoire. Voilà, c'est le mot dérisoire. Ouais, c'est dérisoire.
C'est
on a des gros enjeux à aborder, la guerre en Syrie, la paix au Moyen-Orient, etc. Et ils nous emmerdent avec leur histoire de vin à table. C'est-à-dire que vous avez des gens qui très profondément ne voient pas que, au cœur de cette, que la question du vin à table est, est au cœur de tous les enjeux qui prétendument ils veulent aborder par ailleurs. Sont censés, et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Par exemple, Manuel Valls, qui lui dit beaucoup, sous, enfin, qui prend en compte tout ça, il est très. Il n'est pas dans le. Il dit toujours, moi je fais face à l'islamisme, etc. Il est très. Mais regardez ce qui s'est passé, il est allé en Arabie Saoudite, il a vendu pour 10 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite, quelques jours après que 50 oulémas et prêcheurs, prédicateurs saoudiens, aient lancé un grand appel au djihad en Syrie. Et je pense qu'il était à peine au courant. Ça, moi je l'ai vu dans un article d'un arabisant qui s'appelle Dominique Avon, qui est à l'université du Maine. Je pense que peu de gens le lisent. Je ne sais pas si même ils étaient conscients de ça. Ils sont arrivés en Arabie Saoudite juste après que les plus grandes autorités religieuses aient appelé au djihad en Syrie. Et ils ont vendu pour 10 milliards d'armes. Ça veut dire que même Manuel Valls, qui est quelqu'un qui passe son temps à dire, mais parce que pour lui, tout ça, c'est de l'idéologie. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils prennent très au sérieux la religion comme telle. C'est ça que je voulais dire. Donc, à mon sens, mais je peux me tromper, ça va plus loin que ça. C'est pas juste. On fait de la politique, c'est un discours d'ordre public, de paix sociale, on veut pas qu'il y ait d'amalgame. Hein. Je pense qu'ils y croient vraiment, ils ne donnent pas foi à la croyance. Quoi. Et pour eux, c'est... ils sont dans leur propre croyance très largement, et quand on discute avec eux, on s'en aperçoit, enfin, on a quand même souvent confirmation de la chose. Ça fait penser que voilà, ça bouge, mais pas complètement. Ça bouge, mais oui, toutes les disciplines. Mais quand même, c'est pas si évident. J'étais, parce que par exemple en sociologie, l'autre jour j'ai eu une séance passionnante avec quatre sociologues des religions à l'EHESS. Il y avait Daniel Hervieux-Léger qui était là et qui racontait comment c'était très dur quand même de bosser sur les religions en tant que sociologue. Il n'y en a pas beaucoup qui s'y collent. Et elle a raconté une scène que j'ai trouvée géniale où Bourdieu, à l'époque, s'adressait à des sociologues des religions pour dire, en leur disant, de toute façon, vous bossez sur un truc qui n'a aucun intérêt. Et si vous bossez là-dessus, c'est que vous en êtes. Ça, je trouve ça génial, vous en êtes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des trucs que Foucault lui-même a été soupçonné d'être un fanatique parce qu'il décrivait, il a dit, j'ai été décrit moi-même comme un prophète fanatique, simplement parce qu'il disait, la religion, ça existe, il faut prendre au sérieux la chose, c'est pas rien, quoi. Et on, ça bouge, toutes les disciplines sont travaillées par la chose, etc. Et d'ailleurs, là aussi, je cite beaucoup Derrida, mais quand on parlait tout à l'heure du droit, il y a tout cet héritage, Derrida, il y a cette formule que je trouve très belle, où il dit, il faudrait dissocier, hein. Bon, en permanence, quand tu veux penser la politique, quand on veut penser tout court, on est pris dans l'héritage théologique de l'Occident. Il dit, il faudrait dissocier les traits essentiels du religieux de ceux qui fondent, par exemple, les concepts de l'éthique, du juridique, du politique ou de l'économique. Or, rien n'est plus problématique qu'une telle dissociation. Les concepts fondamentaux qui nous permettent d'isoler ou de prétendre isoler le politique restent religieux ou en tout cas théologico-politiques. C'est-à-dire que tous les concepts qui nous servent à dire que le religion ça sert à rien en fait sont eux-mêmes totalement irrigués par le religieux. Donc tout et c'est un truc qui en sciences humaines est omniprésent. Et dès qu'on parle de la socio, on voit bien, on cite Durkheim, on dit que c'est central, que c'est originaire, que c'est partout. Et en même temps, des sociologues qui bossent sur les religions aujourd'hui, il y en a très peu qui bossent vraiment sur les religions. Donc ça vaut un peu pour toutes les disciplines. Donc à la fois ça bouge, et effectivement moi j'ai été très frappé par ça, j'ai été invité à Solferino pour discuter avec des gens très ouverts, enfin partout, sur ces sujets-là, les gens, enfin, tout est, c'est un peu ouvert. J'en suis assez convaincu comme vous. Voilà, non, je réponds pas vraiment, je dis juste comme vous. Sur la place de l'éducation, c'est tout à fait important. Moi, à la fin du livre, au départ, dans la première version, j'avais 30 000 signes, donc sur des espèces de pistes, de pas de solutions, mais des pistes de réflexion sur ce qu'on pourrait faire, et notamment sur l'enseignement du fait religieux à l'école, etc. Puis j'ai un ami qui a lu, qui m'a dit, franchement, c'est... Il m'a dit, tu soulèves un problème, tu essaies d'en faire une vague, une généalogie et tout, tu décris quelque chose, tes solutions tu peux te les garder, ça n'a pas d'intérêt, et je crois qu'il avait raison. C'était une grosse conclusion très pénible, et où notamment j'abordais la question, effectivement je suis totalement d'accord avec ça, ça dépasse d'ailleurs à nouveau une fois de plus la gauche, c'est la question de notre analphabétisme, effectivement pas seulement à l'égard du religieux, mais de la culture et du symbolique même, du symbolique, c'est un truc tout con que... Oui, quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, moi je suis obsédé par ça, quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, qui était quand même un marxiste, historien des religions, mais un marxiste qui était rentré en politique par l'association des écrivains athées révolutionnaires, ça s'appelait comme ça. Mais pour Jean-Pierre Vernant, il était évident que le symbolique, il n'y avait rien de plus. C'est-à-dire ce qui tend vers au-delà de soi, ce qui tend vers autre chose que soi, il était évident pour lui qu'il n'y avait rien de plus efficace et parfois de plus sanglant et de plus réel que le symbolique pour l'humanité, quoi. Aujourd'hui, vous voyez bien, quand on a un débat et qu'on dit « mais ça c'est une mesure symbolique », ça veut dire « c'est que dalle », quoi. Enfin, le symbolique, c'est toujours que dalle.
Sauf les symboles de la République.
Sauf les symboles de la République, voilà, pour certains en tout cas. En tout cas, il y a une crise du rapport à la religion, de l'analphabétisme, mais bien plus largement. Quand on voit les débats qu'il y a eu sur le voile, où les gens disaient « mais pourquoi ça vous gêne le voile, le string ?» Ça vous gêne pas le string, hein. Ça a été repris partout, cet argument-là, y compris au NPA. J'ai trouvé cet argument sous la plume d'éminents trotskistes. Ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne voient pas la différence entre le string, une culotte affriolante, et un voile. Enfin, exactement comme il y a eu une petite polémique au moment du quick, là, les fast-food quick qui ont voulu faire la viande halal. Et il y a eu une polémique, je ne juge pas du tout sur le fond à nouveau, mais des gens ont dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire s'ils avaient décrété que la viande était... bio, ça vous aurait gêné le bio, ben, pourquoi le halal ça vous gêne? À nouveau, on a tout un tas de gens qui ne voient absolument pas ce que symboliquement ça implique de dire demain la viande des quicks sera cachère ou halal. Ça implique tout un monde, tout un rapport au monde, au corps, à plein de choses. Donc voilà, donc je suis archi d'accord sur ce, mais nous sommes largement tous pris dans cette espèce d'analphabétisme à l'égard du religieux, de l'histoire des religions, mais bien au-delà du rapport au symbolique et comme disait Richard Schmitt tout à l'heure, à la culture.
Deux minutes,
ça me permettra de ne pas répondre à la question la plus difficile. Les formes de violence, c'est une question très difficile. Le peu de choses que j'ai à dire là-dessus, c'est déjà vaguement dans le livre. Je pense qu'en tout cas il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, sur à nouveau notre étonnement à se dire toujours mais comment se fait-il ce nouage comme ça d'une barbarie extrême, d'un acharnement sur les corps et d'un truc ultra moderne, hyper moderne. C'est ce que Derrida travaille très bien. Quand on lit les travaux de Denis Crouzet sur les guerres de religion, qui a senti, et c'est fou qu'il ait surmonté ce risque qu'est pour un historien de Paris IV, hein, de sombrer dans s'exposer à l'accusation d'anachronisme, et qu'il ait fait un livre sur Daesh en tant qu'historien des guerres de religion en Occident. Et bien il montre bien comment quand même à nouveau, et ça rejoint une autre question, il n'est pas nécessaire d'être un grand théologien un peu, de ne pas connaître grand chose. Au moment des guerres de religion, il y avait tout le monde, les gens les plus ignares et les gens les plus cultivés, étaient tous aspirés par cette espèce d'attente messianique et radicale où plus on était violent et plus on allait se débarrasser des mécréants ou des gens, des infidèles, etc., plus on allait hâter l'avènement du royaume de Dieu. Et donc, c'est très important, et c'est d'ailleurs une question, ça rejoint la question de la loi aussi. Jean Bay en parle très très bien, comment la condition de l'abolition de la loi pour les islamistes, les djihadistes, c'est l'application la plus extrême de la loi. Plus on appliquera de façon violente et radicale et acharnée la loi, plus on pourra s'autoriser à s'en passer, puisqu'on on sera quelque part dans le royaume de Dieu. Donc là, toutes ces contraintes pourront être levées, parce que c'est ça qui est en jeu. Je ne sais plus, la gauche, la légitimation de l'ennemi. Alors j'ai pas... Oui, c'était le SWAT en fait, hein.
Oui.
Tellement difficile. Ah non, il y avait la déradicalisation aussi, il faudrait que j'y vienne. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a deux types de légitimation. Moi, il est vrai que le livre tend à dire il faut pas réduire ça à rien, ni à un pur délire, etc. Il faut voir qu'il y a à l'horizon de ça une espèce d'espérance radicale qui est vue comme positive par les gens. Je cite des passages de gens qui disent toute notre démarche n'est qu'amour, si on met la haine à l'origine de notre démarche, ça marche pas, Dieu il veut de l'amour, ça. Tout part d'un élan de justice, etc., etc. Donc ça a été vu, c'était ça qui était aussi en cause tout à l'heure, comme une légitimation, ce qui n'est pas du tout évidemment l'enjeu, mais de leur discours. Le fait que la religion, mais j'ai pas grand chose à répondre là-dessus, peut-être que j'ai pas compris complètement la question, soit l'horizon de légitimation de leurs actes, c'est extrêmement important, parce que si on ne voit pas cet enjeu-là, on voit pas, c'est une question de matérialisme spirituel quelque part. Pendant très très longtemps, il y a des générations qui ont répété le truc de Marx disant il faut arrêter de dire que la conscience détermine l'existence, c'est l'existence sociale, pratique, matérielle qui détermine la conscience. Il faut aussi se souvenir que la croyance peut déterminer très très violemment ou très concrètement l'existence. Et donc, peut-être que je réponds complètement à côté, mais le fait que, oui, les mots qui sont posés pour légitimer chacun des actes en permanence dans ce combat-là, soit des mots qui sont profondément, qui s'inscrivent, qui se connectent, se branchent sur un imaginaire et un élan religieux, bah, c'est extrêmement important. Mais je ne sais pas, ça permet quand même en tout cas de faire face, parce que si on pense que la personne en face de nous est dans un délire ou ne croit pas ce qu'elle dit, qu'elle, enfin, n'est pas en rapport, n'est pas derrière ses mots, voilà, elle est derrière ses mots, cette personne est derrière ses mots, elle les porte très fort. Il ne faut pas croire toujours que on va la prendre dans ses bras, on va dire ah, t'as pas pu rentrer en boîte de nuit, c'est un problème, bah écoute, je vais t'expliquer, tu vas te débarrasser de ta petite croyance. Non, c'est pas ça, c'est un truc beaucoup plus fort et qui pèse beaucoup sur les corps et sur le reste et sur la déradicalisation. Mais moi, j'ai du mal à déconnecter. Vous avez dit, il y a deux types d'idéaux, l'embrigadement et, et une forme d'idéalisme, etc. J'ai du mal à déconnecter. Quelque part, Fethi-Ben Slama en parle bien, d'ailleurs, dans son livre. Il dit à un moment donné, je ne sais plus comment, je l'ai souligné ce matin, je n'aurais presque pu le sortir, j'ai dans mon sac. Il dit, bon, la personne, c'est pas qu'elle se radicalise, au compte, c'est quand même qu'il y a une demande, elle cherche, elle s'est radicalisée, elle est en révolte, elle est dans une tension très forte. Alors là, on peut tout mobiliser, les failles identitaires, les failles narcissiques, les blocages, etc. Enfin, mille choses à nouveau peuvent être mobilisées du point de vue psychanalytique et autres. Mais à un moment donné, mais ça vaut, elle est en recherche de quelque chose de fort, et il y a une interaction avec les deux, comme vous l'avez très bien dit. Mais notre problème est justement de toujours penser que c'est que l'embrigadement qui est en cause, que c'est le méchant à l'autre bout de Facebook là, qui joue le truc et qui va manipuler, etc. Non, il y a quand même à nouveau cette question de l'élan qui est très fort. Je ne vois pas pourquoi un militant bolchevique, personne ne se dit que le militant bolchevique, avec tous ces récits qu'il y a eu, etc., personne ne se dit qu'il a rencontré un gros méchant qui lui a mis la main dans le cerveau et qu'il a... Non, et tout le monde voit bien qu'il y a aussi un désir de radicalité, etc. Et donc, et là, vraiment, je termine là-dessus, moi, finalement, à l'horizon de tout le livre, il y a cette idée qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et donc faire face à ces crimes, à ces actes-là, sans les passer, comme disait Bernanos, au crible de l'espérance. Je pense que la seule manière, de faire face, c'est aussi de réinventer... quelque chose qui pourrait aimanter une contre-espérance, quelle qu'elle soit, qui est d'ailleurs, peut-être que dans Nuit Debout, c'est en partie ça, même si c'est très compliqué, même s'il y a des trucs épouvantables, etc. Ce jeune qui a écrit sur un mur, il y a une autre fin du monde possible, j'ai trouvé cette formule sublime, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire, nous avons toute une jeunesse qui rêve de mourir et qui pense que la fin du monde, elle est désirable, et bien il faut réinventer une autre fin, c'est-à-dire pas une fin à la fin, mais une finalité, une autre destination. Qui permettrait de... Voilà, un autre au-delà. Finalement, toute la politique, même Mitterrand proposait de dépasser la société telle qu'elle est. Alors, c'était pas un bolchevique non plus. Il proposait d'aller au-delà, d'aller au-delà du monde tel qu'il est, de ses injustices, de ses guerres, ses contradictions, etc. De toute façon, on ne pourra pas faire l'économie de cette question de l'espérance en la voyant dans les yeux de ceux qui commettent ces crimes et en essayant d'en réinventer une autre sur d'autres bases, peut-être même d'ailleurs en retravaillant, comme le disait Derrida là, les sources religieuses de nos propres espérances politiques passées et présentes. Voilà, pardon. Merci.
Je ne vais pas prolonger, mais vraiment, on vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Un grand merci de la part de l'AFC, d'être venu, hein, tous les trois soirs, enrichir